Géopolitique.
Sophie Malibaud.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Géopolitique, le débat sur RFI. À l'issue d'une semaine d'actualité dominée une fois encore par deux foyers de tensions particulièrement vives, la crise russo-ukrainienne d'une part, les affrontements entre Kurdes de Syrie et djihadistes de l'organisation de l'État islamique à la frontière turco-syrienne, mais aussi les manifestations à Hong Kong où un mouvement contestataire composé d'étudiants à la base réclame le respect des promesses faites en faveur de plus de démocratie. C'est précisément sur l'Asie que porte aujourd'hui notre débat, afin de savoir si les nouvelles tensions au cœur de l'Europe et au Moyen-Orient, si ce regain de tension peut modifier la stratégie de rééquilibrage vers l'Asie voulue par l'administration Obama, mais aussi par certains acteurs européens. Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux éminents spécialistes de l'Asie et des relations que ce continent entretient avec le reste du monde. Valérie Niquet, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, qui se trouve actuellement à Tokyo. Nous serons donc avec elle au téléphone. Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Et ici dans ce studio, François Godemant, fondateur d'Asia Centre à Paris et directeur du programme Asie d'un think tank européen, le European Council on Foreign Relations. Bonjour,
bonjour.
François Godemant. Alors je m'adresse tout de suite à vous, François Godemant, pour un commentaire sur ce sommet de l'ASEM, le sommet Europe-Asie, qui s'est tenu à Milan en tout début de semaine, avec ce constat que l'on est tenté de faire. Deux sujets semblent avoir pris le dessus, la crise russo-ukrainienne, ainsi que les difficultés économiques de l'Europe. Alors, à quoi aura-t-elle servi cette grand-messe au regard des relations entre les deux continents ?
Vous savez, l'ASEM, je crois que c'est un organisme international qui a des habits un petit peu larges. Tous les Européens, plus les institutions européennes, à peu près tous les Asiatiques, d'autres qui se sont agrégés, c'est immense. C'est probablement le plus grand regroupement. C'est trop, évidemment, pour une, je dirais... des résultats concrets. Donc il y a deux choses à l'ASEM. Il y a des communiqués qui ont été en fait réglés à l'avance comme sur du papier à musique et qui généralement sont extrêmement limités dans leurs annonces. Et puis il y a le fait que c'est le dernier salon où on cause, il y a les rencontres de couloir. Et c'est ça qui s'est passé à Milan. Il y a eu la petite crise boursière et européenne de la semaine qui fait que c'était commode pour les Européens de se rencontrer entre eux, sinon de répondre à des attentes asiatiques. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Et puis il y a bien sûr le ballet Poutine-Poroshenko, le format dit Normandie, qui a dominé tout le reste. Mais au fond, moi j'ai un petit peu l'habitude, généralement quand il y a des sommets de l'ASEM, on a énormément de mal à résumer, à dire si s'est passé quelque chose. C'est un organisme, disons, de bonne volonté.
Est-ce que c'est l'illustration peut-être que les Européens sont à la traîne des Américains dans leur approche de l'Asie ?
Pas forcément, parce que l'APEC, qui était créée bien plus tôt, si vous voulez, avec une initiative d'ailleurs plus australienne et japonaise qu'américaine, mais qui a porté des initiatives américaines,
l'APEC a perdu,
l'APEC a perdu beaucoup de son panache, si vous voulez, aussi. Regardez le monde actuel, il est pas très multilatéral. Il est soit bilatéral, soit, comme on le dit parfois, mini-latéral, avec des initiatives qui sont lancées de façon plus étroite. Donc oui, l'ASEM avait été créé pour que l'Europe soit pas complètement isolée par rapport aux États-Unis en Asie. Oui, comme d'habitude, les Européens sont allés beaucoup trop loin en matière de membership, de participation, je veux dire, c'est extensif.
Il y a trop de monde.
Il y a tout simplement trop de monde, à commencer par beaucoup d'Européens tout de même. Mais non, c'est pas pire.
Vu de Tokyo, Valérie Niquet, les attentes ont-elles été déçues ? Y avait-il des attentes ? Et plus largement, hein, les Japonais, les Chinois, vous semblent-ils aussi intéressés par la démarche européenne que par Washington ?
Alors ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place à un niveau économique, c'est sûr tout de même que les relations entre l'Asie et l'Europe sont importantes pour la Chine. On est le premier partenaire commercial de la Chine. On est également un partenaire très important pour le Japon. En plus, il y a une sorte de rivalité d'image entre Tokyo et Pékin sur le rôle qu'ils peuvent jouer sur le continent européen. En revanche, si on se place d'un point de vue plus stratégique, qui est vraiment, quand on est ici, quelque chose qui domine véritablement les esprits et les titres des journaux, les enjeux stratégiques, eh bien évidemment, les seuls qui jouent un rôle que ce soit plus ou moins positif ou presque négatif pour les Chinois, ou que ce soit vu d'une manière plus positive, évidemment, du côté japonais, entre autres, ce sont les États-Unis. Beaucoup plus que l'Europe, dont on parle beaucoup du soft power européen, qui serait sa manière d'agir, la manière d'agir de l'Europe en Asie. Mais ce soft power, aujourd'hui, ça n'est pas véritablement ça. Que recherchent les Asiatiques, c'est des garanties beaucoup plus concrètes que seuls les Américains sont aujourd'hui capables de leur apporter.
Et alors, ces tensions entre l'Europe et la Russie, qui sont donc venues avec cette crise russo-ukrainienne, est-ce qu'il vous semble que ça pourrait constituer en fait une sorte d'obstacle à la stratégie du rééquilibrage vers l'Asie, parce que les Européens sont omnubilés d'abord par cette question qui les concerne au premier chef, François?
Pour les Européens, bien sûr. L'Ukraine, c'est la priorité stratégique et le changement par rapport à l'ordre d'après 1945 qui se produit, c'est fondamental. Au point, si vous voulez, que, comme les États-Unis d'ailleurs, on cherche à ce que les gens d'Asie de l'Est, les Japonais, les Coréens, et on aurait bien voulu d'autres, par exemple les Indiens, participent aux sanctions contre la Russie. Or, vu d'Asie orientale, c'est complètement différent. Le problème, le danger, c'est moins la Russie que la montée de la Chine et le risque de dérapage et d'une assertivité croissante de la Chine. Donc, vu de Tokyo, vu de Séoul, c'est important d'avoir une ouverture vis-à-vis de la Russie. C'est important d'avoir d'autres partenaires possibles en Extrême-Orient, si vous voulez. Or, avec le resserrement des liens entre Pékin et Moscou, avec la politique des sanctions, c'est beaucoup plus difficile pour les Japonais et pour les Coréens. Ça ferme donc une espèce de liberté stratégique qui s'était donnée. Et je pense que les Américains sont devant un dilemme de ce point de vue-là, entre les deux menaces. La menace à très court terme et très concrète que la Russie fait peser sur l'Ukraine et sur le système européen. Et la menace plus diffuse, plus habile aussi d'ailleurs, difficile à évaluer dans sa dangerosité réelle, que la Chine fait peser sur l'ordre d'après-guerre dans l'Asie maritime. Et là, les États-Unis ont du mal à choisir, ils ont du mal à prioritiser, comme on dit. Et donc, ils sont probablement embarrassés. Personnellement, je penserais tout de même que dans le choix immédiat par le président Obama d'indiquer les limites de son intervention sur l'Ukraine, il a dès le début dit qu'il n'était pas question d'intervention militaire et il a maintenu cette position. Il a affirmé la garantie pour les pays membres de l'OTAN et pour aucun autre. Je pense qu'il y a la volonté de ne pas se laisser enfermer dans une crise ou dans un scénario de crise en Europe orientale qui lui lierait complètement les mains en Asie orientale. Il sait qu'il a deux théâtres sur lesquels il doit être prêt.
Et la réalité de l'axe Chine-Russie, la crise en Ukraine suscite un véritable rapprochement, vous estimez, Valérie Niquet ?
Oui, alors évidemment, pour le moment, dans les discours en tout cas, on met en avant le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. On a annoncé à nouveau la signature de cet accord gazier et ça prochaine concrétisation, mais il faut toujours se méfier en la matière. Et donc, et Moscou et Pékin ont intérêt à mettre en avant ce partenariat, justement, pour répondre aux sanctions qui touchent à la fois la Russie d'un côté, mais aussi une Chine qui se sent idéologiquement de plus en plus isolée dans un monde où elle craint avant tout les stratégies de changement de régime et où elle a tendance à avoir la main de Washington un peu partout. Donc, on met beaucoup en avant ce partenariat, mais ça n'est pas un partenariat qui satisfait non plus pleinement les Russes, qui se trouve véritablement en position de relative faiblesse ou de demandeur face à Pékin, ce qui n'est pas une position très confortable, surtout pour une puissance qui se veut une grande puissance comme la Russie. Et par ailleurs, comme François Gonnemont l'a rappelé, la Russie et le Japon étaient en phase de rapprochement approfondi. Normalement, le président Poutine devait se rendre à Tokyo cet automne. Évidemment, la visite qui n'avait jamais été vraiment fixée et repoussée pour le moment. Mais il est certain que les pressions du côté des États-Unis exercées sur le Japon, et le Japon ne peut pas non plus se soustraire à ces pressions américaines. Le Japon a besoin d'ancrer les États-Unis en Asie dans le cadre de leur accord de sécurité. Donc tout ceci fait que pour Tokyo, c'est une situation effectivement très difficile. Et l'impression qu'on a ici pour beaucoup de Japonais, c'est que l'Europe, par exemple, et même les États-Unis d'une certaine manière, ne comprennent pas les véritables enjeux stratégiques auxquels le Japon considère qu'il fait face, en particulier face à la Chine, et que donc en exerçant ces pressions pour plus de sanctions et plus de sévérité à l'égard de la Russie, il met le Japon dans une position de grand embarras, alors que justement les choses étaient en passe de s'améliorer. Juste une chose, côté chinois, évidemment, les Chinois, eux, se réjouissent et espèrent, évidemment, que les États-Unis se trouvent ancrés à nouveau et en Europe et au Moyen-Orient pour se détourner un peu du Pacifique, du théâtre indo-pacifique. Mais justement, je crois que là aussi, François Godemont a raison, les États-Unis, je crois, ont fait leur choix et ils ne se laisseront pas entraîner ni en Europe ni au Moyen-Orient. Au-delà de ce qu'ils veulent faire pour donner des signaux importants, mais pour eux, le théâtre important aujourd'hui, vraiment, c'est à tous les niveaux, c'est l'Asie.
Mais alors, comment est-ce qu'on le mesure concrètement, François Godemont, l'aspect sécuritaire d'abord ?
L'aspect sécuritaire en Asie ?
Oui, le pivot américain, le rééquilibrage américain vers l'Asie. Comment est-ce qu'on le mesure ? Quels sont les signaux les plus évidents ?
C'est une tendance de long terme. Le basculement de l'armée américaine, de la marine, des armes stratégiques vers l'Asie, vous savez, c'est quelque chose qui est continu depuis le début des années 80, en réalité. Il y a des phases de mise en danger budgétaire, et où on parle à ce moment-là de l'apparition d'un vide possible, on s'inquiète de l'usure des matériels, du possible retrait de base. Mais en réalité, il y a une certaine continuité. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce que disent beaucoup les républicains qui s'opposent à la politique d'Obama, qui disent au fond, Obama est simplement revenu à ce que nous faisions avec son histoire de pivot. Il confirme, en fait, plutôt qu'il n'innove.
Il confirme par rapport à une période qui a précédé les mandats de Bush, père et fils.
Ah non, il confirme par rapport au début de sa propre administration, quand il a engagé, à partir de la fin 2008, une politique beaucoup plus ouverte vis-à-vis de la Chine, une politique qui voulait aller plus loin. Si vous voulez, certains parlaient même de confiance stratégique. Il a été frustré, il a été déçu par la non-réponse de la Chine, ou même peut-être par le fait que le pouvoir chinois a considéré que c'était plutôt un signe de faiblesse américaine, qu'il a assimilé ça à un possible déclin lié à la crise économique. Et donc, c'est plutôt un retour de l'administration Obama sur des positions précédentes. Dans le détail, bien sûr, il y a des innovations en matière d'accord sur des bases, en matière de déploiement. Il n'y a aucun doute que le Japon finit par obtenir, mais du bout des lèvres, une forme de garantie sur les territoires sur lesquels il a le contrôle, sinon la reconnaissance complète de la souveraineté, c'est-à-dire les fameuses îles Senkaku. Ça reste limité parce qu'il ne faut pas oublier que les conditions d'exercice de la garantie américaine, elles supposent plusieurs conditions réunies, et notamment que les forces américaines soient mises en cause en même temps que les forces japonaises. Donc, vu du Japon, il reste une zone grise, inquiétante. Et je crois que la vraie question que se pose toute l'Asie, c'est à quel moment l'Amérique interviendrait-elle dans un début de conflit, si vous voulez, ou bien resterait-elle en arrière le plus longtemps possible.
Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Valérie Niquet, un petit peu aussi sur cet aspect militaire, sécuritaire? Est-ce qu'on peut raisonner en termes de vases communicants, en fait, ce que les Américains déploient sur ce théâtre asiatique maintenant, va-t-il manquer sur les théâtres européens et au Moyen-Orient notamment?
Voilà, encore une fois, vraiment, plutôt que tout de même les Américains ont fait leur choix et que ce choix se porte beaucoup plus vers l'Asie que vers le Moyen-Orient ou l'Europe. Et notamment en matière de capacité navale, un des éléments clés du pivot, ça a été cette annonce qui était que désormais, 60%, enfin à l'horizon 2020, 60% des capacités navales des États-Unis seraient déployées sur le théâtre indo-pacifique et non plus dans l'ensemble moitié-moitié entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie et le Pacifique de l'autre côté. Donc ça, c'était un signe fort qui a été donné. Récemment, les Américains ont envoyé également un nouveau porte-avions sur zone qui actuellement est dans l'océan Indien, mais qui est destiné également à se rendre dans le Pacifique. Et puis surtout, il y a également ces accords qui sont tout de même importants sur une présence, d'abord un renforcement du réseau d'alliances bilatérales avec le Japon, avec l'Australie, c'est très important, avec les Philippines. Et donc tout ça veut démontrer à la Chine L'objectif étant de donner un signal fort après une période où effectivement Pékin avait pensé que les États-Unis étaient finalement très en retrait, focalisés sur les théâtres comme l'Irak, l'Afghanistan, et donc ne constituaient plus véritablement un obstacle aux ambitions ou à la stratégie d'affirmation de la Chine en Asie. Eh bien, les États-Unis ont compris qu'il fallait donner des signaux suffisamment forts à Pékin pour justement tenter d'éviter un dérapage, une action qui imposerait une réponse éventuelle.
Et en fait, le pivot stratégique aujourd'hui, le rééquilibrage, il est en train de s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait en matière de containment, on appelait ça le containment en temps de guerre froide, c'est-à-dire qu'il s'agissait de contenir les velléités d'extension du bloc soviétique. Les Américains sont en train d'agir pareil avec la Chine aujourd'hui, François Godemont ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse comparer. Parce qu'il reste dans la politique américaine vis-à-vis de la Chine une forte composante d'engagement. Parce que regardez, dès que les incidents se calment, il n'y en a pas eu depuis quelques semaines entre Américains et Chinois, il y en a encore avec le Japon, mais vous avez immédiatement des déclarations, y compris de porte-parole militaire, qui disent au fond ces incidents c'est plutôt des choses isolées, c'est l'exception plutôt que la règle. Et nous avons confiance dans les bonnes relations avec la Chine. Le côté pile, c'est le pivot, mais le côté face, c'est l'absolu souci des États-Unis de ne pas se laisser entraîner dans un conflit avec un pays dont ils sont très interdépendants économiquement et dont ils estiment avoir besoin, sinon stratégiquement, du moins diplomatiquement, dans de nombreuses circonstances.
Mais tout de même, au début, cette stratégie, c'était quasiment la promotion d'un partenariat économique. Et maintenant, on le voit bien, les discussions sont plus d'ordre de stratégie militaire.
Ce sont les dirigeants chinois qui parlent, ou leurs commentateurs, les experts chinois, qui parlent sans trop de difficultés de compétition stratégique ou de concurrence stratégique. Mais les États-Unis n'ont absolument pas renoncé au dialogue avec la Chine. Ils s'engagent éventuellement, si la Chine l'accepte, dans des négociations sur le partenariat transpacifique, le fameux TPP, si vous voulez. Non, moi je crois qu'il faut regarder la politique américaine avec lucidité. Ils sont obligés de ne pas se laisser dépasser, d'accorder certaines garanties. Ils risqueraient de perdre leurs principaux alliés en Asie si la garantie ne s'appliquait pas. Ça vaut pour le Japon, pour la Corée et pour l'Inde, certainement aussi, même s'il n'y a pas de garantie stricto sensu pour l'Inde, mais c'est un allié de facto. Ayant fait ça, ils essayent de faire en sorte que cette garantie ne s'applique pas, n'ait pas à s'appliquer. Et on le voit très bien, par exemple, dans le cas des Philippines. Si on prend ça, s'arrête une seconde sur cet exemple. En juin 2012, il y a eu un vrai test militaire entre les Philippines et la Chine. La Philippine, le plus petit pays sur le plan militaire, a opposé un vrai navire de guerre contre la Chine. Les États-Unis se sont interposés, ont amené la Chine à reculer quelque peu, mais immédiatement après, la Chine a repris son mouvement, disons, enveloppant d'affirmations maritimes autour des zones contestées des Philippines, et les États-Unis ne font plus rien contre ça. Laisse faire. Ce qu'ils veulent, c'est éviter le clash, si vous voulez, mais je ne crois pas qu'ils cherchent à renverser la situation, ni même à stopper les moyens d'assertion chinoise.
Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie Niquet ? Il n'y a pas de risque de dérive, d'escalade militaire dans la région à cause de la mise en œuvre de ce partenariat stratégique ?
Partenariat stratégique, vous voulez dire
de ce rééquilibrage, je veux dire, de ce rééquilibrage vers l'Asie.
Oui, rééquilibrage, oui, en direction de l'Asie.
Oui.
Bien sûr, il y a des risques réels de dérapage. Mais c'est vrai que les États-Unis ne souhaitent pas avoir un conflit ouvert avec la Chine. Et pour eux, le meilleur moyen d'éviter les dérapages, c'est aussi de rassurer leurs propres alliés. Il ne faut pas oublier que si le manque de confiance dans l'engagement américain s'affirmait trop en Asie, notamment au Japon, certains évidemment, mentionne la possibilité pour Tokyo de se réarmer plus qu'ils ne le font actuellement. Il y a un élément qu'on a moins noté que les révisions de l'interprétation de la constitution japonaise, c'est le fait que désormais les Japonais ont levé quasiment la totalité des limites à l'exportation d'armement qu'ils avaient et que déjà ils mettent en place des coopérations avec les Philippines, mais aussi avec le Vietnam, avec l'Australie. Donc le Japon est prêt aussi à éventuellement franchir un certain nombre de pas qui seraient potentiellement déstabilisateurs si la confiance dans l'engagement américain venait à faiblir. Alors ce qu'il faut noter aussi du côté chinois, c'est l'insistance que mettent les Chinois aujourd'hui pour tenter d'imposer ce concept, je ne sais pas s'il est très nouveau, mais en tout cas très mis en avant, qui est celui de d'un nouveau type de relation entre grandes puissances qui serait censé caractériser la relation entre la grande puissance américaine et la grande puissance chinoise, dans une sorte d'adoubement de la Chine par la puissance américaine. Les États-Unis ont été un peu ambigus là-dessus, à la fois...
Si vous le voulez bien, Valérie Niquet, nous allons y revenir juste après la petite pause que nous faisons, une page d'information, et puis on se retrouve dans 10 petites minutes pour poursuivre.
Géopolitique, Sophie Malibaud.
Nous reprenons le débat en compagnie de deux grands spécialistes de l'Asie, des relations internationales et des affaires stratégiques, les chercheurs François Godemant et Valérie Niquet, en ligne avec nous depuis Tokyo. Nous tentons aujourd'hui de faire un état des lieux de la stratégie américaine de rééquilibrage vers l'Asie. Et vous nous disiez, Valérie Niquet, juste avant la pause, que du point de vue chinois également, il y avait la tentative d'entretenir un nouveau type de relation entre les deux principales puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Qu'entendez-vous par là ?
Mais en fait, dans ce fameux rêve chinois dont on parle beaucoup, il y a l'idée que l'idéal pour la Chine, évidemment, serait de se voir reconnue une sorte de prééminence en Asie par la puissance américaine. Et Xi Jinping lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il y avait suffisamment de place dans le Pacifique pour deux grandes puissances. Et donc, ce qu'il aimerait, c'est ce que la Chine aimerait, ce que les dirigeants chinois aimeraient aujourd'hui, c'est que les États-Unis reconnaissent en fait cette sorte de division du monde en Asie où les Chinois s'occuperaient de l'Asie, les États-Unis du reste du monde, mais n'interféreraient pas dans les intérêts de la Chine dans la région. Évidemment, si ce format se mettait en place, et pour le moment, les États-Unis, évidemment, ils sont très, très réticents, ça aurait des conséquences extrêmement déstabilisatrices sur l'ensemble de la région, puisque, bien sûr, l'ensemble des voisins de Pékin, la quasi-totalité, si on le met de côté, et encore la Corée du Nord, ne serait pas du tout favorable à ce type de partage des tâches entre la Chine et les États-Unis. C'est toujours le retour aussi autour de la thématique du G2, que les Chinois ont beaucoup critiqué, mais en même temps, on sent bien une certaine attirance à Pékin pour cette, encore une fois, cette reconnaissance par les États-Unis de la puissance chinoise comme la deuxième grande puissance ou presque amigale.
Je vous vois opiner de la tête, François Godemant. Vous estimez que ce type de duo, de répartition des rôles dans un G2 entre Washington et Pékin, c'est quelque chose de réalisable?
Moi, je reviens d'une semaine de conversation à Pékin et on n'entend pas tellement parler de l'exclusivité de la relation sino-américaine. Je crois qu'il faut se souvenir que la diplomatie chinoise, elle est très habile à proposer aux autres des miroirs. Le miroir qui plaît aux États-Unis, c'est de se dire on va avoir une espèce de communauté de vues, alors qu'en fait, par l'expression d'un nouveau type de relation entre grandes puissances, ce que la Chine réclame, c'est la reconnaissance de l'égalité stratégique avec les États-Unis. On oublie un peu qu'elle propose ou qu'elle promeut plus discrètement la même relation avec la Russie, par exemple. Autre grande puissance, reconnue comme telle par la Chine. C'est un équilibre qui est volontaire, si vous voulez. Alors,
ça donnerait plutôt un G3, mais personne ne
le qualifiera
voilà.
Ainsi. Mais ce dont on entend beaucoup plus parler à Pékin, c'est de la mise en cause d'un équilibre d'après-guerre, d'un système d'après-guerre qui est qualifié d'un système de guerre froide. Par exemple, on peut entendre que si la Chine accepte encore aujourd'hui les conférences du Caire ou de Potsdam, les grandes conférences qui ont préparé le règlement de 45, le traité de San Francisco, qui a fondamentalement organisé les relations avec le Japon après-guerre, ou l'alliance typo-américaine ne sont pas acceptées et que la Chine veut par conséquent renégocier un certain état de choses de l'après-guerre. C'est beaucoup plus fondamental comme contestation, et ça ne peut que rencontrer en plein une réaction américaine forte. L'habileté de la Chine, c'est de le gérer dans la durée. C'est de pas lâcher tous ses chevaux, si j'ose dire. Et regardez ce qui se passe, parce que nous sommes maintenant en octobre, on est à la veille du sommet de l'APEC.
Tout à fait.
Ça fait au fond 2 mois et demi qu'il s'est pas passé grand-chose sur le terrain. Oui, les incursions routinisées avec le Japon continuent. Oui, il y a eu une remarquable petite provocation pendant la visite du président Xi Jinping en Inde. Mais en dehors de ça, si j'ose dire, c'est assez calme. Et ça suffit pour que l'atmosphère se détende. Ça suffit pour que des déclarations américaines apparaissent dans l'autre de sens. Ce qui me fascine le plus sur cette situation en Asie, c'est que c'est au fond la Chine qui en décide du rythme de l'évolution. Mmh. C'est elle qui tient la baguette du chef d'orchestre, si vous voulez, même si elle n'est pas encore la plus puissante.
Et alors, ce à quoi on va assister en novembre, c'est quasiment une semaine asiatique pour le président Obama. Il va se rendre successivement donc au sommet de la PEC à Pékin les 9 et 10 novembre, ensuite au sommet de l'ASEAN le 12 novembre en Birmanie, puis le G20 en Australie le 15, des rencontres quand même extrêmement rapprochées où Obama sera normalement présent à chacune de ces étapes. On peut imaginer que ce sera un moment crucial peut-être pour la mise en œuvre de ce rééquilibrage vers l'Asie du point de vue américain. Valérie Niquet, comment cette séquence est-elle perçue de votre côté? Vous êtes à Tokyo en ce moment. Comment est-ce qu'on voit ces échéances?
C'est d'autant plus important, d'abord en ce qui concerne la présence américaine, elle est d'autant plus attendue que justement, il y a quelque temps, Obama avait renoncé, pour des raisons de politique intérieure américaine, à un voyage très attendu
en Indonésie.
Et que donc immédiatement, on s'était interrogé sur la réalité de l'intérêt des États-Unis pour les enjeux stratégiques en Asie. Donc Obama donne des signes forts. Il ne faut pas oublier tout de même que les tensions sont fortes avec la Chine. On l'a vu lors du dernier dialogue Shangri-La à Singapour, où les déclarations des deux côtés n'étaient pas très apaisantes. Les tensions et les escarmouches en mer de Chine ne cessent pas. Donc, même si on les relève plus ou moins, elles entretiennent un climat d'incertitude et de tension dans la région qui est pris en compte par l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, du côté japonais, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on voit la volonté du côté de Abe, peut-être poussée là par les États-Unis, de tenter d'apaiser les relations avec Pékin, et on parle d'une possible amorce d'accord ou en tout cas de reprise des discussions entre le Japon et la Chine sur la question des Senkaku, justement à l'occasion de ce sommet de la PEC. On verra ce qui en sortira.
Oui.
Alors, du côté japonais aussi, on voit bien qu'il faut tenter de jouer tout de même l'apaisement pour éviter encore une fois des risques trop importants en termes de sécurité dans la zone.
Vous y croyez, vous, François Godemont, à la rencontre à venir entre le numéro 1 chinois et le numéro 1 japonais?
Moi, je crois que c'est la rencontre la plus importante, en fait, du sommet de la PEC, plus que ce que peut dire ou ne pas dire le président Obama. Vu d'Europe, Shinzo Abe est souvent vu comme une espèce d'extrémiste potentiellement révisionniste. Il est nationaliste, c'est vrai, mais il est très pragmatique. Il était parfaitement capable, quand il était au pouvoir en 2008-2009, de ne pas aller à Yasukuni. Il a même signé un accord avec ses principaux concurrents au sein du PLD. Il a, par rapport à son prédécesseur, à Koizumi, marqué une inflexion plutôt dans la relation avec la Chine. S'il franchissait le pas qu'effectivement, ce qui se répète à Tokyo et qui n'est pas encore garanti, c'est-à-dire que le Japon reconnaîtrait l'existence d'une manière ou d'une autre d'un contentieux territorial, c'est une énorme revendication chinoise qui serait satisfaite, ça serait une vraie évolution.
Mais vous
et par
pensez
parenthèse,
ce
serait la première
sont...
fois que les deux pays en parlent depuis l'ère Deng Xiaoping. Ils n'en ont plus jamais parlé ensemble depuis.
Les Japonais pourraient admettre ça, admettre qu'il y a effectivement un contentieux territorial dans cette zone.
Je pense qu'ils ne le feront pas sous la forme conventionnelle de dire qu'il y a un contentieux territorial qui peut être réglé devant une instance arbitrale, mais qu'ils peuvent reconnaître, un petit peu comme pour Taïwan et la Chine, que « we agree to disagree », c'est-à-dire qu'il y a deux points de vue, ce qui serait une façon indirecte de concéder l'existence des points de vue chinois. Mais c'est une spéculation
à ce
stade.
Nous ne sommes pas d'accord.
Exactement.
Ouais. Quel type de règlement est-ce qu'on pourrait attendre, même à long terme, sur un sujet aussi sensible que ces îlots Senkaku, Diaoyu, selon l'appellation chinoise? Les États-Unis et les Européens ont-ils la moindre marge de manœuvre pour concilier les intérêts de leurs partenaires? Car chinoises et japonais sont des partenaires pour les États-Unis comme pour les Européens.
Donc, par parenthèse, je voulais corriger l'impression qu'on a peut-être donnée que l'Europe avait zéro implication. On n'a pas de porte-avions sur place, on n'a pas de moyens d'intervention comme puissance dure, directe. Mais par contre, la politique de sécurité, coopération de sécurité, vente d'armes, coopération après les ventes d'armes, ça compte. Des pays comme la France et comme le Royaume-Uni sont assez engagés. Un pays comme l'Allemagne, qui se dit si réticent aux intervenants, mais qui vend des sous-marins à Singapour et qui va essayer d'en vendre pour une somme record à l'Australie, par exemple, on peut pas dire qu'il n'est pas engagé. Idem avec l'Inde, si vous voulez, dont la France sera le deuxième fournisseur après les États-Unis.
Aux côtés de Tokyo, tout de même, pour les Français.
Aux côtés de Tokyo. Regardez les déclarations des sommets européens avec l'Asie. elles ne sont pas totalement équidistantes. La Chine se félicite officiellement qu'il y ait une neutralité européenne. Elle n'est pas totale, car on appelle au respect de l'intégrité territoriale, on appelle au respect de la liberté de circulation maritime et dans les airs, donc on conteste la zone déclarée par la Chine ou la façon dont elle est unilatérale, dont elle a été déclarée. On a même, sur le plan européen, approuvé ce qu'on a appelé la diplomatie dynamique du gouvernement japonais. C'est un espèce de mot de code pour dire que Shinzo Abe déploie une diplomatie plutôt pacifique et négociatrice. Donc elle est quand même un tout petit peu d'un côté de la question. Mmh. Ce qu'on ne peut pas, absolument pas faire, c'est prendre position sur la souveraineté, parce que ça, non seulement ce devrait être idéalement l'objet d'une juridiction arbitrale de la Cour de justice internationale,
mais en pratique, les Chinois sont très opposés à ça aussi.
Ça n'aura pas lieu.
Du fait des Chinois ?
Du fait des Chinois, du fait des Vietnamiens, du fait des Coréens, du fait de quantité de pays qui ont une expérience défavorable de la juridiction internationale et qui font plus confiance soit à eux-mêmes, soit à la négociation, ce qui est une chose tout à fait différente, si vous voulez. Ça n'exclut même pas qu'on utilise le droit international dans la négociation. Je prends l'exemple de la résolution des problèmes maritimes entre Chine et Vietnam au niveau de Hainan et du golfe de Tonkin. Quand vous regardez la limite qui a été tracée entre les deux pays, ils n'ont absolument pas fait référence au droit international. Ils ne se sont pas adressés à la Cour de justice, mais l'accord qu'ils ont conclu respecte les critères internationaux, mais par eux-mêmes, si vous voulez, car ils ne font pas confiance à une instance tierce.
Ça veut dire, Valérie Niquet, si vous êtes d'accord avec tout ça, qu'on est en fait, la région est condamnée à une sorte de tension latente sur la très longue durée, sur toutes ces zones conflictuelles, alors que la Chine tente sans cesse d'avancer ses billes en mer de Chine méridionale et mer de Chine orientale.
Non, effectivement, la tension en Asie continuera avec des hauts et des bas, selon les intérêts que Pékin verra à souffler le chaud ou le froid, tant que le système politique tel qu'il existe aujourd'hui en Chine existera. Dans la mesure où je pense que ce système, pour survivre, une de ses stratégies de survie, au-delà de la croissance économique et de la satisfaction du bien-être de la population, c'est quand même un discours extrêmement nationaliste qui demande non pas peut-être des résultats spectaculaires, mais en tout cas qui explique un peu cette stratégie permanente d'affirmation de puissance qui débouche sur ces tensions multiples. Et ce qui est assez fascinant avec ce régime chinois d'ailleurs, c'est que, qu'on dit si efficace parfois, c'est justement la manière dont il a tout de même réussi à se mettre à dos, même si on peut mettre des bémols, la quasi-totalité en même temps de l'ensemble de ses partenaires asiatiques, y compris d'ailleurs d'une certaine manière la Corée du Sud, avec pourtant, ils partagent pourtant des intérêts avec la Corée du Sud sur l'histoire vis-à-vis du Japon. Et donc on voit bien qu'il y a certains éléments dont l'affirmation de souveraineté territoriale qui est au cœur de l'idéologie qui est en place aujourd'hui à Pékin, et qui fait que la marge de manœuvre du régime chinois et de ses dirigeants n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne sera pas soumis à des pressions en interne pour que justement il s'affirme plus et ça serait à nouveau une source de tension accrue dans la zone.
François Godemont.
De façon peut-être amusante, c'est pratiquement ce que les experts chinois actuellement disent à Pékin. C'est disent, comprenez nos dirigeants, notre gouvernement, il y a une demande de l'opinion publique, ils auraient du mal à aller contre. Moi, je suis pas complètement convaincu, parce que je suis persuadé que ce régime a des marges immenses du fait de sa nature autoritaire. Prenez un exemple, avec tous les incidents qu'il y a avec le Japon depuis septembre 2012. En septembre 2012, il y avait eu des incidents très violents, les plus violents depuis 1949.
Des manifestations anti-japonaises.
Anti-japonaises et contre, liées au boycott, à l'incendie de véhicules japonais conduits par des conducteurs chinois, etc. Enfin, des choses vraiment sérieuses. Il ne s'est rien passé depuis. Au Vietnam, il y a pu y avoir de véritables émeutes anti-chinoises. Une partie des cadres ou des travailleurs chinois au Vietnam ont dû partir. Il n'y a pas eu la moindre réaction publique en Chine. Donc moi, j'ai tendance, Valérie, par rapport à ce que vous dites, à minoriser un peu le facteur pression par en bas et à maximiser un peu le facteur manipulation par en haut dans un sens ou dans l'autre. Oui, mais donc, alors, le régime chinois peut nous surprendre, bien sûr.
On a quand même ce décalage énorme, en fait, entre un système politique assez figé, vraiment figé, et une économie très ouverte sur le reste, sur le monde entier. Et donc, ce contraste qui donne peut-être, à la base d'un phénomène comme ce à quoi on assiste à Hong Kong. Est-ce que vous pensez que... comment est-ce que vous voyez la suite des événements de Hong Kong ?
Le régime chinois ne pense pas que son économie est ouverte sur le monde entier. D'ailleurs, il s'emploie dans certains domaines à la refermer. Il pense qu'il est en ascendance dans le monde entier. Ce n'est pas la même chose. Et une partie des classes moyennes chinoises, si on peut parler de classe moyenne, pense qu'elle est portée par ce courant, par cette vague. Donc, elle est quand même tentée par le nationalisme économique. Hong Kong, c'est tout autre chose. Pour moi, c'est une question importante, mais pas forcément liée au climat de l'opinion chinoise. Hong Kong, ça a été négocié en 84. Ça s'applique depuis 97 pour 50 ans. Si vous aviez,
justement, le problème, c'est
si
que
vous
ça
aviez
30 pas
ans en 97, c'était pas votre problème ce qui arriverait en 2047. Si vous avez 17 ans, comme le principal leader étudiant du mouvement à Hong Kong, Joshua Wong, un lycéen de 17 ans, eh bien 2047, ça vous concerne très directement. Et je dirais aussi la submersion économique du territoire de Hong Kong par les intérêts, les capitaux chinois, les touristes chinois, les investisseurs chinois, c'est ça qui est en train d'aggraver considérablement l'inégalité. Hong Kong n'a jamais été un modèle, hein. Mais c'est bien pire qu'avant, derrière la prospérité apparente. Ça vous préoccupe. Et donc, je pense que à Hong Kong, le système est victime de son ambiguïté. L'ambiguïté du règlement fait que maintenant tout le monde se demande « et après ?» Et donc les questions deviennent brûlantes et l'inégalité s'est renforcée.
Est-ce qu'on peut oser la comparaison de cette situation à Hong Kong avec ce qui s'est passé en Ukraine, avec la place Maïdan à Kiev, et puis ensuite le durcissement des relations, donc ces manifestations qui débouchent ensuite sur un très fort durcissement des relations entre Européens et Russes. Est-ce que Hong Kong, ça pourrait déboucher avec les accusations en plus formulées par Pékin d'un mouvement instrumentalisé par l'extérieur, est-ce qu'on pourrait arriver à une rupture du dialogue éventuelle ?
C'est en tous les cas plus juste de comparer ça avec l'Ukraine ou Maïdan qu'avec Tiananmen, parce que tout de même, à Hong Kong, quoi qu'on en dise, la modération de ce que fait la police, l'administration locale, ce qui reste, si vous voulez, de la tradition britannique d'administration, c'est quand même frappant. Je vous assure qu'en Chine, il n'y aurait pas eu un mois de manifestation dans ces conditions sans qu'il y ait énormément de morts. Donc les gens de Hong Kong sont encore protégés dans une certaine mesure par leur système. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont complètement déchirés puisqu'on leur propose de participer à la globalisation pleine et entière et d'être des concurrents, si j'ose dire, à l'échelle mondiale, tout en leur interdisant le volet politique futur, je dirais, de la citoyenneté globale, en faisant des citoyens et encore sans doute de deuxième catégorie à l'intérieur d'un système autoritaire.
Valérie Niquet, comment est-ce que vous voyez évoluer cette question dans les prochains moments, et notamment en ce mois de novembre où il y aura tellement de réunions, de rendez-vous diplomatiques en Asie avec Américains, Chinois, Russes, Japonais ? Sur la question de Hong Kong, est-ce que vous pensez que cette question va passer au second plan ? Est-ce qu'elle peut être au contraire utilisée par les uns ou les autres ?
Alors, ce qui est certain, c'est que tout dépendra de la manière dont les manifestations vont évoluer. On a le Pékin et les autorités de Hong Kong ont beaucoup espéré que le régime, les manifestations s'éteignent d'elles-mêmes. On s'aperçoit qu'elles sont d'une moindre intensité, mais elles se poursuivent et elles sont toujours prêtes à se réveiller. Là, actuellement, les négociations sont entamées, mais on sent une très grande vigilance dans la population et les étudiants qui manifestent. Donc, il y a énormément d'incertitudes. C'est-à-dire que est-ce que le régime chinois est prêt à accepter des manifestations qui se prolongent pendant beaucoup plus longtemps ? Là, actuellement, en Chine, on est en période de congrès, de plénum du comité central. Donc, ça n'est pas une période où les décisions se prennent, mais dans les semaines qui suivent, c'est surtout les interrogations de mon côté, en tout cas sur la manière dont sera gérée cette crise à Pékin et par ricochet à Hong Kong.
Merci beaucoup. Malheureusement, cette émission se termine. Cette émission touche à sa fin. Nous aurons donc, bien entendu, le suivi de toutes ces questions des rendez-vous diplomatiques au mois de novembre et évidemment le suivi de la situation à Hong Kong dans nos journaux sur RFI. Merci à nos invités, François Godemont, je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques, fondateur d'Asia Centre à Paris et directeur du programme Asie et Chine à l'European Council on Foreign Relations, Valérie Niquet, maître de recherche, responsable du pôle Asie de la Fondation pour la Recherche Stratégique et rédactrice en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle Asie. Merci également à Nathalie Laporte qui réalise cette émission. Demain, vous retrouvez Marie-France Chatin pour une émission consacrée cette fois aux enjeux des élections de mi-mandat aux États-Unis.